Chapitre 30. Camp Achéen, Côte d'Ilium. Pour le moment, la soirée se déroule comme l'a décrit Homère. Les Troyens ont disposé des centaines de feux de camp à deux pas des tranchées des Achéens, c'est-à-dire de leur ultime ligne de défense sur la plage, mais ces derniers, totalement démoralisés par les revers qu'ils ont subis de l'aube au crépuscule, n'ont même pas pris la peine d'allumer les leurs. J'ai endossé la forme du vieux phénix pour me joindre à la foule qui s'est massée près de la tente d'Agamemnon, où le fils d'Atrée, en larmes, le roi des Grecs est en larmes, exhorte les autres chefs à fuir avec leurs hommes. J'ai déjà vu Agamemnon recourir à cette stratégie, feindre le désespoir pour exciter ses troupes. Sauf que cette fois-ci, il est évident qu'il ne bluffe pas. Les cheveux en bataille, l'armure couverte de sang, les joues inondées de larmes, il encourage ses hommes à prendre la fuite. C'est Diomède qui se lève pour le défier, le traitant de lâche ou quasiment, et se déclarant résolu, avec si nécessaire le seul Sthénélos à ses côtés, à se battre jusqu'à voir le terme fixé au destin de Troie. Les autres Achéens acclament ce discours de Matamor, et c'est ensuite le vieux Nestor, fort de ses années d'expérience, qui suggère à tout le monde de se calmer, de manger un morceau, de poster des sentinelles, d'envoyer des veilleurs près des tranchées et des remparts, et de réfléchir avant de se précipiter dans les nefs pour appareiller et rentrer à la maison. Et c'est ce qu'ils font, tout comme l'a décrit Homère. Alors les sept chefs de garde, conduits par Trasimède, le fils de Nestor, rassemblent chacun 100 guerriers pour établir de nouvelles positions défensives entre tranchées et remparts et pour allumer les feux de camp. Ceux-ci, auxquels se joint le brasier allumé par Agamemnon, n'atteignent qu'un nombre peu élevé, et ils paraissent bien dérisoires comparés aux centaines de foyers troyens par-delà la tranchée, dont les braises prennent d'assaut les plafonds de nuages. Le grand conseil d'Agamemnon est ouvert à tous les seigneurs et chefs de guerre achéens, et c'est là que se poursuit le dialogue rapporté par Homère. Nestor reprend la parole, louant Agamemnon pour son courage et sa sagacité, mais lui faisant comprendre sans détour qu'il a merdé dans les grandes largeurs en piquant à Achille l'esclave Briséis.
« Ah, vieillard, tu n'as pas menti !» répond Agamemnon en toute sincérité. « J'ai été fou d'insulter Achille. »«
Fou et aveugle !»
Le grand roi marque une pause, mais aucun des grands chefs massés autour du feu ne prend la peine de le détromper.
« Fou et aveugle !» répète Agamemnon. « Je ne saurais prétendre le contraire. »« Zeus aime tellement ce jeune homme qu'il vaut à lui seul tout un bataillon. Non, toute une armée !»
Personne n'en disconvient.
Et comme c'est ma rage qui m'a rendu fou et aveugle, je vais me racheter en lui offrant une rançon de roi pour qu'il rejoigne les rangs achéens.
Là, les chefs assemblés, et notamment Odysseus, marmonnent leur assentiment entre deux bouchées de viande de bœuf ou de poulet.
Devant vous tous ici, j'énumérerai les illustres présents par lesquels je m'assurerai l'amour du jeune Achille,
reprend Agamemnon.
7 trépieds encore ignorants de la flamme, 10 talents d'or, 20 chaudrons resplendissants, 12 étalons taillés pour la victoire, dont les pieds ont déjà triomphé au concours.
Et blablabla, exactement comme l'a décrit Homère. Exactement comme je l'ai prédit plus haut. Et également comme je l'ai prédit, Agamemnon jure de restituer à Achille une Briséis encore intacte, de lui offrir 20 Troyennes, une fois que la cité aura été prise évidemment, et, en guise de pièces de résistance, les plus belles de ses 3 filles, Chrysothémis, Laodice et Iphianassa. En scoliaste invétéré que je suis, je ne peux m'empêcher de relever une incohérence avec les récits antérieurs, notamment l'absence d'Électre et une possible confusion avec Iphigénie, mais passons. Avec pour dessert, les 7 citadelles que j'ai évoquées plus haut. Et, tout comme Homère l'a rapporté, Agamemnon juge en outre qu'il peut se dispenser d'excuses.
Voilà ce que pour lui je suis prêt à faire, s'il renonce à son courroux,
déclare le fils d'Atrée à ses chefs rassemblés. Dans le ciel, le tonnerre gronde et les éclairs jaillissent comme si Zeus s'impatientait.
Mais qu'il se soumette à moi,
ajoute Agamemnon.
Seul Hadès, le dieu de la mort, est aussi implacable, aussi inflexible que ce parvenu. Qu'Achille cède et se soumette à moi. Je suis plus grand roi que lui, et par mon âge, je me flatte d'être plus grand homme.
Pas question d'excuses, donc. Il s'est mis à pleuvoir. une pluie fine, insistante, épicée par la foudre de Zeus et les cris avinés des Troyens franchissent sans peine les 100 mètres qui nous séparent des remparts boueux. Il me tarde que les ambassadeurs soient désignés afin que je puisse accompagner Odysseus et Ajax et en finir une bonne fois pour toutes. Cette nuit est la plus importante de ma vie, à tout le moins de ma seconde vie de scoliaste, et je répète intérieurement la déclaration que je compte faire à Achille.
Si tu veux changer nos destinées, tu dois trouver le pivot.
Je crois que je l'ai trouvé. Enfin, que j'en ai trouvé un. En tout état de cause, plus rien ne sera pareil pour les Grecs, les dieux et les Troyens, sans parler de mon humble personne, si je mets mon plan à exécution. Lorsque le vieux phénix s'adressera à Achille, ce sera non seulement pour l'exhorter à mettre un terme à sa colère, mais aussi à faire cause commune avec Hector, à pousser Grecs et Troyens à affronter les dieux eux-mêmes.
Très glorieux Atride, Agamemnon, protecteur de ton peuple,
s'écrie soudain Nestor.
Nul homme, pas même notre prince des hommes, Achille, fils de Pélée, ne saurait refuser une telle offre. Eh bien, dépêchons donc des envoyés choisis qui iront au plus vite jusqu'à la tente d'Achille. Allons ! Que ceux que je vais ici désigner soient prêts à obéir !
Drapé dans la chair du vieux phénix, je me place au premier rang de l'assemblée, tout près d'Ajax le Grand, me rendant bien visible aux yeux de Nestor.
Tout d'abord,
lance-t-il,
qu'Ajax le Grand leur serve de guide, et avec lui notre brillant tacticien Odysseus. Jamais avare de ses conseils. Parmi nos héros, je choisis Odios et Eurybate pour les escorter. Apportez de l'eau pour leur laver les mains. Puis ordonnez le silence, afin que nos prières implorent Zeus avec l'espoir qu'ils nous prennent en pitié.
Je reste paralysé par le choc, tandis que l'on procède aux ablutions d'usage et que les rois penchent la tête pour prier. Nestor rompt le silence en encourageant les envoyés, 4 envoyés et non 5, qui se préparent à partir.
Ne ménagez point votre peine. Tâchez de convaincre l'impitoyable Achille de nous prendre en pitié.
Et les 2 ambassadeurs, accompagnés des 2 héros, s'éloignent sur la plage.
Je n'ai pas été choisi. Phénix n'a pas été choisi. Son nom n'a même pas été cité. Homère s'était trompé. Le cours de cette guerre de Troie vient de diverger de celui de l'Iliade, me laissant aussi aveugle à l'avenir qu'Hélène et tous les autres acteurs de ce drame, aussi aveugle que les dieux, aussi aveugle qu'Homère lui-même, maudit soit-il !
Vacillant sur mes jambes décharnées, sur les vieilles jambes décharnées de Phénix, je me ferai un chemin parmi les chefs grecs et cours le long du rivage où déferlent les vagues pour rattraper Ajax et Odysseus. Je les rattrape alors qu'ils ont franchi la moitié de la distance les séparant du campement d'Achille. Ils parlent à voix basse en foulant le sable mouillé. Tous 2 font halte en me voyant.
« Qu'y a-t-il, Phénix, fils d'Amintor ?»
me demande Ajax le Grand.
« J'ai été surpris de te voir au festin royal, car on dit que tu ne t'es guère éloigné des guérisseurs myrmidons ces derniers mois. Agamemnon t'a-t-il envoyé à nous pour nous donner ses ultimes recommandations ?»
Haletant, comme si j'étais aussi décati que Phénix, je réponds « Salut à vous, noble Ajax, royal Odysseus. En vérité, le roi Agamemnon m'a demandé de me joindre à votre ambassade auprès d'Achille. » Si Ajax accueille cette information avec perplexité, Odysseus se montre carrément soupçonneux.
« Pourquoi Agamemnon te choisirait-il pour une telle tâche, vénérable ancêtre ? Et comment se fait-il que tu te sois trouvé dans le camp d'Agamemnon par une nuit si dangereuse, alors que les Troyens se massent devant nos défenses tels des chiens affamés ? »
Je ne peux donner aucune réponse à la seconde question, et c'est par un bluff que je réponds à la première.
« Nestor a suggéré que je me joigne à vous, m'estimant à même de faire fléchir Achille, et Agamemnon a jugé son conseil des plus sages. »
« Eh bien, viens avec nous, Phénix, »
me dit Ajax.
« Mais ne parle que lorsque je t'en donnerai la permission. »
Ajoute Odysseus qui me fixe comme s'il m'avait percé à jour.
« Nestor et Agamemnon ont peut-être jugé utile de t'envoyer chez Achille. Mais je ne vois aucune raison pour que tu lui parles. »«
Mais... »
commençais-je. « Je ne vais pas plus loin. » Si je n'ai pas le droit de prendre la parole, après Odysseus mais avant Ajax, comme Homer l'a prévu, je perds toute influence sur le cours du récit, je perds le pivot, j'échoue dans ma mission. Si je n'ai pas le droit de prendre la parole, les événements de cette nuit divergeront de ceux de l'Iliade. Mais une divergence s'est déjà produite. Phénix aurait dû être choisi par Nestor et ce choix aurait dû être approuvé par Agamemnon. Que se passe-t-il ici ?
Et si tu nous accompagnes dans la tente d'Achille, vieux Phénix ? M'avertit Odysseus. Tu resteras dans l'antichambre en compagnie des héros Odios et Eurybate et tu attendras mon ordre pour aller plus loin ou ouvrir la bouche. Telles sont mes conditions.
Mais
je comprends que toute protestation est inutile. Si j'éveille encore plus les soupçons d'Odysseus, il me ramènera dans le camp d'Agamemnon, ce qui éventera ma ruse et ruinera mes espoirs de dresser les hommes contre les dieux.
Oui, Odysseus, dis-je aussi obéissant que le vieux précepteur que je suis censé être. À tes ordres.
Odysseus et Ajax le Grand se remettent en route et je les suis. J'ai parlé de la tente d'Achille, et peut-être avez-vous imaginé un genre de tente de camping. Mais le fils de Pélée vit dans un édifice de toile rappelant le chapiteau d'un cirque où je suis allé durant mon enfance, durant une enfance que je commence à me rappeler. Apparemment, Thomas Hockenberry a eu une vie, et au bout d'une décennie ou presque, certains de ses souvenirs refont surface dans mon esprit. Ce soir-là, le tableau que composent les centaines de tentes et de feux de camp autour du chapiteau d'Achille est aussi chaotique que le reste du camp achéen. Certains des loyaux myrmidons chargent les nefs noires en vue d'un prochain départ. D'autres montent la garde au cas où les Troyens réussiraient à faire une percée sur la plage avant le lever du jour. Et d'autres encore se rassemblent autour des feux comme l'ont fait tout à l'heure Agamemnon et ses commandants. Odios et Eurybate ont annoncé notre venue au capitaine. Et les membres de la garde rapprochée d'Achille nous saluent et nous laissent entrer dans l'enceinte. Nous quittons la plage pour gravir la dune au sommet de laquelle Achille a planté son chapiteau. Je suis les deux Achéens dans celui-ci. Ajax le Grand est obligé de baisser la tête, ce dont est dispensé Odysseus qui mesure 30 cm de moins que lui. Odysseus me désigne un coin dans l'antichambre. En m'y installant, je verrai et entendrai tout ce qui se passe sans pouvoir intervenir. Ainsi que l'a décrit Homer, Achille est occupé à chanter un poème épique du même genre que l'Iliade en s'accompagnant à la lyre. Cet instrument fait partie du butin que lui ont rapporté la conquête de Thèbes et le meurtre d'Éétion, le père d'Andromaque. La femme d'Hector a grandi en écoutant cette même lyre d'argent dans son royal foyer. Patrocle, l'ami le plus cher au cœur d'Achille, attend que celui-ci ait fini de chanter pour le relayer sur le couplet suivant. Achille cesse de jouer et se lève, surpris, à l'entrée d'Ajax et d'Odysseus. Patrocle en fait autant.
« Bienvenue !» lance Achille, se tournant vers Patrocle. « Regarde, voici des amis qui viennent à nous. On doit avoir grand besoin de moi là-bas, car je le reconnais, en dépit de ma colère. Vous êtes mes amis les plus chers parmi les Achéens. »
Il prie les deux émissaires de s'asseoir sur des sièges bas, leur offrant des tapis de pourpre pour leur confort. Puis il se tourne vers Patrocle.
« Allez, fils de Ménotios, attrape un plus grand bol de vin. Tiens, pose-le ici. Faisons un mélange plus fort. Une coupe pour chacun de mes nobles invités. Ce sont des amis très chers qui sont aujourd'hui sous mon toit. »
J'observe le déroulement de ce rituel d'hospitalité héroïque que je trouve d'une grâce surprenante. Patrocle place près du feu un lourd billot de bois sur lequel il pose un dos de brebis et un dos de chèvre, ainsi qu'une échine de porc débordante de graisse. Automédon, ami et cocher d'Achille et de Patrocle, tient la viande pendant qu'Achille découpe des morceaux de choix, les sale et les embroche. Patrocle attise le feu durant une minute, puis étale la braise et dispose les brochettes pour la cuisson, ayant pris soin de les saler à nouveau. Je m'aperçois que je suis mort de faim. Si on me priait de prendre la parole, et si notre destin à tous en dépendait, j'en serais incapable tant j'ai l'eau à la bouche. Comme s'il avait entendu mon ventre gargouiller, Achille jette un coup d'œil dans l'antichambre et se fige sous l'effet de la surprise.
Phénix, bien-aimé mentor, cavalier émérite, je te croyais cloué au lit par la maladie. Entre, entre!
et le jeune héros se précipite sur moi, me serre dans ses bras et m'entraîne au centre de son foyer, où l'air embaume à présent la viande rôtie. Odysseus me poignarde du regard, m'enjoignant de rester muet pendant l'échange qui va suivre.
« Assieds-toi, vénéré phénix !»
dit Achille, dont ce vieillard a été le précepteur. Deux fois, il me propose des coussins rouges et non pourpres, et me place plus loin du feu qu'Odysseus et Ajax. Quoique fidèle en amitié, Achille est soucieux du protocole. Patrocle apporte des panières d'osier contenant du pain encore chaud, et Achille fait glisser la viande rôtie sur des plateaux de bois.
« Faisons offrande aux dieux, mes amis, » dit-il.
D'un signe de tête, il ordonne à Patrocle de jeter dans les flammes les morceaux de viande sélectionnés à cet effet.
« Et maintenant, mangeons !»
Nous attaquons tous avec appétit le pain, la viande et le vin. Alors même que je savoure mon repas, mon esprit tourne à plein régime. Comment vais-je me débrouiller pour prononcer le discours qui doit changer notre destin à tous, y compris celui des dieux ? Cela semblait si simple il y a une heure. Mais Odysseus ne m'a pas cru lorsque j'ai déclaré lui avoir été envoyé par Agamemnon. Dans l'épopée homérique, Odysseus est le premier à s'exprimer, transmettant à Achille la proposition d'Agamemnon. Puis Achille lui répond, se fendant d'un discours dont je disais à mes étudiants qu'il était le plus beau et le plus puissant de l'Iliade, et c'est ensuite au tour de Phénix de prononcer un long monologue en trois parties où se succèdent son histoire personnelle, la parabole dite des prières et l'évocation de Méléagre, paradigme du héros mythique, tardant trop à accepter des présents et à se battre pour ses amis. L'un dans l'autre, le discours de Phénix est de loin le plus convaincant des plaidoyers adressés à Achille. Et à en croire l'Iliade, ce sont ses arguments qui convainquent ce dernier de retarder son départ, prévu pour le lendemain matin. Lorsque c'est au tour d'Ajax de prendre la parole, Achille déclare qu'il accepte de rester un jour de plus pour voir ce que vont faire les Troyens et, si nécessaire, pour protéger ses nefs de leurs assauts. J'ai prévu de répéter l'essentiel du discours de Phénix, me fiant pour cela à ma mémoire, puis d'y insérer mes propres suggestions. Mais je vois Odysseus m'adresser un nouveau regard menaçant et je sais que je n'aurai pas le droit d'en placer une. Et quand bien même le pourrais-je ? J'ai envisagé la possibilité que les dieux espionnent cette réunion. Il s'agit de l'un des épisodes clés de l'Iliade après tout, même si Zeus est sans doute le seul à le savoir. Quoiqu'ignorant de ce fait, certains dieux et déesses suivent sans doute la scène sur leur bassin vidéo ou leur tablette visuelle. Zeus leur a ordonné de ne pas intervenir ce jour, et la majorité d'entre eux lui obéissent, ce qui ne fait sans doute qu'attiser leur curiosité eu égard à cette ambassade. Si Achille accepte les présents d'Agamemnon, s'il cède devant le pouvoir de persuasion d'Odysseus, alors l'offensive d'Hector sera contrariée et peut-être la volonté de Zeus avec elle. Achille est une armée à lui tout seul. Donc, si je tente comme prévu mon offensive hérétique, si je m'efforce d'encourager Achille à guerroyer avec les dieux, Zeus ne risque-t-il pas d'intervenir sur le champ, désintégrant cette tente et tous ses occupants? Et même s'il maîtrise sa colère, j'imagine sans peine Athénée, Érée, Apollon ou un autre descendant des cieux pour détruire ce phénix qui a osé suggérer une action si contraire à leurs intérêts. J'ai pensé à tout cela, bien entendu, mais je compte sur le médaillon Técu et sur le casque d'Hadès pour me sauver la mise. Et supposons que je réussisse à filer, mais que ces héros soient éliminés ou subjugués par la colère divine. Tous mes efforts n'auront servi à rien, hormis à révéler mon existence aux dieux. Le casque d'Hadès et le médaillon Técu ne me seront plus alors d'aucune utilité. Les dieux me traqueront jusqu'au bout du monde, jusqu'à l'Indiana préhistorique si nécessaire. Et plus d'Oakenberry. Peut-être qu'Odysseus m'a rendu un service en m'interdisant de parler. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais ici? Bientôt, nous sommes rassasiés, les plateaux sont poussés de côté, il ne reste dans les panières que des miettes de pain, et nous sommes prêts pour une troisième coupe. Je vois alors Ajax faire un petit signe de tête à Odysseus. Le grand stratège se lance et lève sa coupe pour porter un toast à Achille.
« À ta santé, Achille !»
Nous l'imitons et le jeune héros nous salue d'un hochement de sa tête blonde.
« Je vois que nous ne manquons de rien !»
poursuit Odysseus d'une voix étonnamment douce. presque mielleuse. De tous les grands chefs achéens, cet homme barbu est le plus affable et le plus rusé. Non, nous ne manquons de rien, que ce soit au camp d'Agamemnon ou ici dans la demeure du fils de Pélée. Mais ce n'est pas un festin qui nous occupe l'esprit par cette nuit tempétueuse. Non, c'est la perspective d'une terrible catastrophe, conçue et voulue par les dieux, qui nous inspire tous à la peur. Et Odysseus continue dans cette veine, en douceur, sans se presser, ménageant ses effets rhétoriques. Il décrit la déroute de l'après-midi, le triomphe des Troyens, la panique des Achéens prêts à prendre la fuite, le rôle joué par Zeus dans les événements. Ces imputants Troyens, leurs méprisants alliés, ont planté leur tente à un jet de pierre de Nonef, Achille. Poursuit Odysseus. Comme si Achille n'avait pas été informé de cela par Patrocle, Automédon et ses autres amis. Comme s'il n'avait pas des yeux pour voir. Plus rien ne peut désormais les arrêter. Tel est le cri qu'ils poussent, et ils ont allumé des milliers de foyers pour souligner cette menace. Dès les premières lueurs de l'aube, ils porteront le feu dans nos nefs noires, les prenant d'assaut et massacrant les survivants de nos armées. Et Zeus, fils de Cronos, ne cesse de les encourager de sa foudre, tandis qu'Hector se grise de colère et de puissance. Il ne redoute rien, Achille, ni les hommes ni les dieux. Hector est pareil à un chien enragé ces temps-ci, possédé par les démons de la catalepsis. Odysseus marque une pause. Achille reste muet. Son visage est indéchiffrable. Patrocle a les yeux fixés sur lui, mais le héros ne daigne même pas lui accorder l'aumône d'un regard. Quel joueur de poker il ferait ? Hector attend l'aube avec impatience, reprend Odysseus en adoucissant encore le ton. Car il compte dès le lever du jour abattre les emblèmes qui couronnent nos nefs, en incendier les coques dans un feu ardent et massacrer les Achéens pris au piège par les flammes. Un véritable cauchemar, Achille. J'en ai le cœur glacé de terreur. Et je crains que les dieux ne lui donnent les moyens de mettre ses menaces à exécution. Je crains que notre destin ne soit de périr ici, sur la plaine d'Ilium, loin des collines d'Argos où paissent les cavales. Achille conserve son mutisme lorsqu'Odysseus fait une nouvelle pause. Les braises mourantes crépitent. Dehors, à quelques tentes d'ici, un musicien joue un air funèbre sur sa lyre. De la direction opposée nous parvient le rire aviné d'un soldat qui se pense visiblement condamné.
« Lève-toi donc, Achille !»
lance Odysseus d'une voix maintenant claironnante.
« Lève-toi et rejoins-nous, même s'il est bien tard, si tu as quelque envie de préserver les Achéens du tumulte troyen !»
Puis il demande à Achille d'oublier sa colère et lui transmet la proposition d'Agamemnon, le citant mot pour décrire trépied, étalon et le reste. À mon humble avis, il s'attarde un tantinet sur Briseis, les captives troyennes et les trois belles filles d'Agamemnon. Mais il achève son discours par une péroraison passionnée, rappelant à Achille le conseil que lui a donné son propre père, à savoir oublier les querelles au nom de l'amitié.
« Mais si le fils d'Atrée demeure trop odieux à ton cœur pour que tu acceptes ses présents, » conclut Odysseus, « aie du moins pitié des autres Achéens. Rejoins nos rangs, sauve-nous et nous t'honorerons comme un dieu. Rappelle-toi en outre que si ta colère t'empêche de combattre, si le dédain te pousse à rentrer chez toi, à voguer sur la mer vineuse avant que cette guerre de Troie ne soit achevée, alors tu ne sauras jamais si tu étais de taille à tuer Hector. Tu as une chance d'accomplir cette aristeia, Achille, car Hector, tout à sa frénésie de combat, sera à ta portée demain, après avoir passé des années à se terrer derrière les murailles d'Ilium. Reste avec nous. Bats-toi à nos côtés, noble Achille, et tu pourras affronter Hector en combat singulier.
Je dois admettre que le discours d'Odysseus est vraiment magistral. Si j'étais ce jeune demi-dieu allongé sur les coussins, je me laisserais sans doute persuader. Nous attendons en silence, puis Achille pose sa coupe de vin et répond.
« Noble fils de Laërte, rejeton de Zeus, tacticien plein de ressources, mon cher Odysseus, je dois vous signifier brutalement la chose comme j'entends la faire et comme elle se fera. De la sorte, vous n'aurez pas à roucouler l'un après l'autre, ni à m'envoyer d'autres ambassades pour tenter de me fléchir. Celui-là n'est en horreur à l'égal des portes d'Hadès, qui dans son cœur cache une chose et sur les lèvres en a une autre.
Voilà qui me fait sursauter. S'agit-il d'une pique adressée à Odysseus, tacticien plein de ressources, qui a chez les Achéens la réputation de déformer la vérité lorsque cela l'arrange? Si tel est le cas, Odysseus ne bronche pas. Aussi conservai-je à Phénix une expression parfaitement neutre.
« Je parlerai clairement, » poursuit Achille. Agamemnon compte-t-il vraiment me conquérir, me persuader avec ses cadeaux?
Tout juste s'il ne crache pas ce mot.
Non. Il me ferait don du monde que cela n'y suffirait point. Pas plus que les suppliques de toutes les armées achéennes et de tous leurs capitaines, car leur gratitude est aussi tardive que médiocre. M'ont-ils témoigné leur gratitude durant toutes ces années où j'ai affronté leurs ennemis, bataille après bataille, campagne après campagne, passant à combattre des journées sans fin? J'ai ravagé 12 cités avec mes nefs. J'en ai pris 11 autres dans les terres, des terres que j'ai abreuvées du riche sang des Troyens. Et de ces cités, j'ai rapporté des monceaux de richesses, des montagnes de butin, des troupeaux entiers de femmes superbes, ne manquant jamais d'en réserver la meilleure part pour en faire offrande à Agamemnon, ce fils d'Atrée, qui restait bien à l'abri dans ses nefs noires ou à l'arrière, loin du front. Et il n'a refusé aucune de mes offrandes, loin de là. Oh oui, parfois il nous accordait des miettes, à toi et aux autres chefs, mais il conservait toujours pour lui la part du lion. C'est à vous, dont la loyauté est nécessaire à son régime, qu'il consent à donner. À moi, il prend. Il m'a même pris l'esclave que j'avais choisi pour épouse. Eh bien, qu'il aille se faire foutre, et elle avec lui, mes chers camarades. Qu'Agamemnon se tape Briseis si ça lui chante, et s'il a assez de vigueur pour cela.
Ayant de nouveau exprimé ses griefs, Achille s'interroge maintenant sur les raisons même du conflit, du point de vue des Myrmidons, mais aussi des Achéens et des Argiens.
« Est-ce pour Hélène aux beaux cheveux que nous faisons la guerre ? »
demande-t-il d'une voix dédaigneuse. Puis il rappelle à Odysseus que Ménélas et son frère Agamemnon ne sont pas les seuls à être privés d'épouse et que cela fait 10 ans que Pénélope se morfond sur Ithaque. « Moi, je revois Hélène sur sa couche, ses beaux cheveux cascadant sur ses épaules, ses seins blancs illuminés par le clair de lune. J'ai du mal à me concentrer sur le discours d'Achille, bien qu'il soit aussi splendide, aussi surprenant que le texte d'Homère. Il y fait vaciller sur ses bases le code héroïque qui fait de lui un super-héros, un dieu aux yeux de ses semblables. Achille déclare qu'il n'ambitionne nullement d'affronter le glorieux Hector. Il ne souhaite ni le tuer ni périr de sa main. Achille déclare qu'il lèvera l'ancre à l'aube ainsi que tous ses hommes, abandonnant les Achéens à leur sort, qu'ils implorent la pitié d'Hector lorsque les Troyens auront forcé leur défense. Achille déclare qu'Agamemnon est un chien caparaçonné de morgue et que jamais il n'épouserait une de ses filles, fût-elle douée de la beauté d'Aphrodite et de l'intelligence d'Athénée. Puis Achille fait une déclaration vraiment stupéfiante. Il nous confie que sa mère, la déesse Thétis, lui a appris qu'il aurait à choisir entre deux destinées. Soit il reste ici, participe au siège de Troie et tue Hector au combat, mais alors il est condamné à périr quelques jours plus tard. Dans ce cas, toujours selon sa mère, il est promis à une gloire éternelle dans le cœur des dieux comme des hommes. Soit il prend la fuite, auquel cas il perd tout honneur, mais a droit à une vie longue et prospère. Le choix lui appartient, lui a dit sa mère il y a des années. Et Achille a choisi la vie. Voilà que ce héros, cette masse de muscles et de testostérone, ce demi-dieu, cette légende vivante, voilà qu'il préfère la vie à la gloire. Odysseus emplisse les yeux d'incrédulité et Ajax en reste bouche bée.
Odysseus, Ajax, vous qui êtes mes frères, retournez auprès des grands rois d'Achaïe.
Transmettez-leur ma décision. C'est à eux qu'il appartient de sauver les nefs creuses, ainsi que les hommes qui demain se retrouveront acculés à leur coque en flammes. Quant à Phénix, qui est jusqu'ici resté silencieux,
je fais un bond de 10 centimètres sur mon coussin rouge. J'étais tellement concentré sur mon discours à venir, sans parler de ses conséquences sur le plan de la morale, que j'ai oublié qu'une conversation était en cours.
« Phénix, dit Achille avec un sourire indulgent, Odysseus et Ajax sont peut-être obligés d'aller faire leur rapport à leur maître, mais tu es libre de passer la nuit ici, avec Patrocle et moi-même, et d'embarquer avec nous l'aube venue. Mais seulement si Phénix le souhaite. Je ne veux forcer personne.
Voilà ma chance. » Ignorant le rictus d'Odysseus, je regarde autour de moi, me lève, m'éclaircis la gorge et me prépare à réciter le long discours de Phénix. Comment commence-t-il déjà? J'ai passé des années à l'étudier et à l'enseigner, à m'imprégner de toutes ses nuances, et voilà que je l'ai oublié.
Ajax se lève.
Pendant que ce crétin se demande s'il doit s'enfuir avec toi, Achille, permets-moi de te dire que tu es aussi stupide que lui.
Achille, le tueur d'hommes, d'ordinaire si prompt à s'enflammer, ce héros prêt à laisser mourir tous ses amis achéens plutôt que de concéder à Agamemnon la jouissance d'une esclave, accueille cette insulte d'un sourire et d'un haussement de sourcils.
Renoncer à la gloire et à 20 femmes de choix pour une autre femme qui t'est interdite.
Bah ! S'écrie Ajax en tournant les talons.
Viens, Odysseus. Cet enfant gâté n'a jamais goûté le lait de l'amitié humaine. Laissons-le à sa colère et allons porter notre sinistre message aux Achéens impatients. Le soleil se lèvera bien vite et j'ai besoin de me reposer un peu avant le combat. Si je dois mourir demain, je ne veux pas mourir mal réveillé.
Odysseus opine, se lève, salue Achille d'un signe de tête et sort sur les talons d'Ajax. Et moi, je reste là, la bouche grande ouverte, prêt à réciter le long discours en 3 parties de Phénix, ce discours si habile, enrichi de mes abords personnels tout aussi habiles. Patrocle et Achille se lèvent, s'étirent et échangent un regard. De toute évidence, tous deux s'attendaient à cette ambassade et connaissaient la teneur de l'étonnante réponse d'Achille.
« Phénix, vieux père, aimé des dieux, »
me dit Achille d'une voix chaleureuse.
« J'ignore ce qui t'a amené ici par cette nuit tempétueuse. » Mais je me souviens que lorsque j'étais un enfant, tu me portais dans tes bras pour me coucher dans mon lit après la leçon. Reste ici cette nuit, Phénix. Patrocle et Automédon vont te préparer une couche douillette. Demain matin, nous ferons voile pour rentrer chez nous, et tu pourras nous accompagner, si tu le souhaites.
Après un dernier salut, il se retire dans ses appartements privés situés au fond de la tente, et je reste là, crétin que je suis, muet comme une carpe, tétanisé par ce retournement de situation totalement imprévu. Achille doit rester ici, même s'il ne prend pas part au combat, afin que l'Iliade suive son cours normal, avec une nouvelle victoire des Troyens et une épidémie de blessures chez les chefs achéens, Odysseus, Agamemnon, Ménélas, Diomède et les autres. Pris de compassion pour ses amis, mais sachant qu'Achille ne viendra pas à leur aide, Patrocle endosse alors l'armure d'or d'Achille et repousse les Troyens, pour être ensuite tué en combat singulier par Hector, qui avilit et profane son cadavre. Achille sort enfin de sa tente, empli d'une rage meurtrière, scellant ainsi le destin d'Hector, d'Ilium, d'Andromaque et d'Hélène, notre destin à tous. Il va vraiment partir? Je n'arrive pas à y croire. Non seulement je n'ai pas trouvé le pivot susceptible de changer les choses, mais en outre, l'Iliade vient de dérailler. Cela fait plus de 9 ans que j'exerce l'activité de scoliaste, observant les événements pour les rapporter à la muse, et pas une fois je n'ai constaté de divergence significative entre cette guerre et celle qu'Homère relate dans son poème. Et maintenant, ceci. Si Achille s'en va, ce qu'il semble bien décidé à faire dès le lever du jour, les Achéens seront vaincus et leur nef incendiée. Ilium sera sauvé et c'est Hector, et non Achille, qui sera proclamé héros de l'épopée. Je ne vois pas comment l'Odyssée pourrait alors se produire. En tout cas, pas tel que j'en connais le texte. Tout a changé. Et uniquement parce que le vrai Phénix n'était pas là pour prononcer son vrai discours. À moins que les dieux n'aient tripoté ce pivot avant que j'aie la chance de le faire. Je ne le saurai jamais.
Moi qui espérais faire basculer Achille et Odysseus lors de cette réunion, je peux dire adieu à mon plan si astucieux.
Viens, vieux phénix,
me dit Patrocle. Il me prend par le bras comme si j'étais un enfant, me conduisant dans une pièce où m'attendent coussins et couvertures.
C'est l'heure d'aller au lit,
ajoute-t-il.
Demain est un autre jour.